Igitus figitus zombre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zade. Un peu de grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé de marquer un sport en guerre. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Bonsoir. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu, il est 19h05 et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. On va commencer directement au national ce soir en vous parlant d'un protocole de refus du partage massif des données médicales en France.
On enchaînera en vous parlant de la défenseur des droits qui s'alarme sur les barrières liées au tout numérique dans les services publics.
Petite pause musique, puis pas d'indemnité inflation pour les détenus.
Ensuite, on va parler de Media Crash, le film de Mediapart.
Et puis, on aura du côté des droits des personnes sans papier et des luttes qui se mènent actuellement contre les guichets qui sont fermés en préfecture.
Vous les attendiez, on vous donnera des nouvelles d'Orpea et de son ex-directeur.
Et un petit peu de sport. Hijab, une manifestation interdite.
Après, on va passer du côté des violences policières et on va parler du non-lieu pour les policiers de la BAC qui ont tué Liu Xiaoyao par balle.
Et puis du côté de l'international, on ira au Sénégal où le train de la modernité et le seau de riz renversé. C'est une sorte de haïku. Vous en saurez plus tout à l'heure.
On continuera comme toutes les semaines avec l'agenda.
Pour finir par un ACAB.
Ok, bonne écoute.
Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et oui, on vous en a déjà parlé il y a 3 semaines, je crois. En janvier 2022, a été lancé sans consentement un nouveau système de partage de données de santé entre professionnels de santé dans l'espace en ligne, dans l'espace santé, vous avez compris, on parle de santé, qui remplace donc le dossier médical partagé qui était créé, lui, sur demande des utilisateurs et des utilisatrices. Le principal gros changement, c'est que maintenant, concrètement, les ordonnances, directives anticipées, rendez-vous, compte rendu d'hospitalisation, traitement, antécédents médicaux seront disponibles sur cet espace en ligne et donc encore plus facilement accessibles par différents professionnels de santé qu'on pourrait rencontrer. et pourquoi pas l'administration et les flics, ou pour le médecin traitant enregistré ayant un accès privilégié, c'est-à-dire qu'il aura accès à toutes ces infos, même celles qu'on pourrait masquer soi-même sur son espace. Le principal changement, c'est donc que ça se fait automatiquement et non plus sur demande d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. Il est en fait possible de supprimer l'accès aux professionnels de santé qu'on veut, sauf aux médecins traitants. Alors à ce moment-là, il faut... Enfin, c'est des informations à vérifier, mais les personnes qui ont fait des recherches dessus se demandent si à ce moment-là, il faut changer de médecin traitant. Peut-être qu'il y a un transfert de données du précédent au nouveau médecin traitant. Tout ça à vérifier. Mais en tout cas, pour l'intégralité des autres professionnels de santé, c'est possible de supprimer cet accès. Si le dossier est tout de même créé, car l'opposition n'a pas été faite à temps, il est possible de le supprimer, mais les données sont conservées alors pendant 10 ans. Et on vous le dit tout ça maintenant parce qu'on dispose de 6 semaines après notification par mail de cet espace pour envoyer une demande de refus. Voilà, donc en ce moment, il y a plein de mails qui sont envoyés pour dire que ces espaces sont créés. Et donc, il y a une sorte de porte ouverte, je dirais, de un mois et demi pour pouvoir le refuser. Et après, ce sera trop tard. Et si vous le refusez après, vos données sont quand même conservées. Donc, on a très envie de vous dire comment le refuser. Vous pouvez bien le refuser, puis vous dire plus tard, peut-être vous avez envie que ça existe. Hein. Mais dans le doute, on vous conseille d'utiliser ce protocole tout de suite. Alors, si jamais vous avez accès à Internet, vous pouvez vous identifier sur monespacesanté.fr, saisir du coup le code que vous aurez reçu par mail, un peu toutes vos infos, votre numéro de sécu, voilà ce que vous avez comme carte vitale. Et vous allez être redirigé vers une page pour activer ou s'opposer à la création de Mon Espace Santé. Du coup, il ne faut pas faire comme moi, par exemple, et ne jamais ouvrir vos mails Mon Espace Santé ou Amélie, mais bien l'ouvrir, y aller et refuser ce protocole de partage massif de vos données médicales. C'est hyper simple, visiblement, il faut en gros 3 ou 4 clics. Si vous n'êtes pas très mail, vous pouvez aussi le faire par téléphone. Vous pouvez appeler le 3422. Et là, il faut donner votre code confidentiel qui aura quand même été envoyé par mail. Donc, il faut quand même un mail. Et là, vous pouvez demander un justificatif de refus à la fin de la procédure. Donc, comme je vous l'ai dit, il est important de le faire rapidement, car les mails sont envoyés en ce moment. On vous en a déjà parlé, donc vous pouvez réécouter un précédent Canu Info, mais peut-être pour vous le rappeler très brièvement, les conséquences d'un tel partage sont graves, notamment pour les personnes psychiatrisées, des personnes trans, des personnes queer, des personnes ayant des addictions répertoriées, incarcérées, dans le collimateur des flics. Mais en fait, on pourrait se dire que c'est un peu grave pour tout le monde et qu'on n'a pas envie que nos données de santé elles soient fichées. Et on se souvient des partages d'infos entre les DEC et les médecins d'urgence pendant le début des Gilets jaunes, pour ne citer que ça. Donc voilà, petite procédure simple. On retient se connecter à Mon Espace Santé dès que vous recevez un mail et cliquer sur s'opposer.
Et pour ça, il vous faudra Internet, une fois encore. Et puis ça tombe un petit peu bien, enfin un petit peu bien ou un petit peu mal en tout cas, mais on a eu récemment un nouveau rapport de la Défenseure des droits qui est venu nous parler justement de la numérisation des services publics, le tout numérique, c'est les grands termes de Macron. Alors peut-être en préalable, on peut dire que numériser une partie des services publics et pas aller se pointer absolument forcément dans tous les services publics pour demander quoi que ce soit, c'est quand même pas si mal. Mais par ailleurs, il faut quand même qu'on garde un peu des personnes, un accueil physique, des gens compétents qui puissent accueillir les gens. Parce que sans très grande surprise, donc Claire Hédon, qui est la défenseure des droits en ce moment, dans son rapport, en gros, elle explique qu'effectivement la dématérialisation c'est chouette, mais qu'en fait ça éloigne plein de personnes de l'accès aux services publics. Pour se donner une petite idée, quand même, il y a encore 15% des foyers en France qui ne sont pas équipés d'Internet à domicile. Du coup, on peut quand même se dire qu'il y a 15% des gens où tous les clics et justement, par exemple, refuser d'avoir ces données centralisées, c'est quand même pas si simple. Alors, elle donne dans ce rapport quelques exemples assez concrets. Donc, des gens qui mettent parfois 6 mois, 1 an ou 18 mois à obtenir leur pension de retraite et qui, pendant tout ce temps-là, bah, ils ont fini de bosser, ils n'ont plus de salaire et ils touchent que dalle. Donc, c'est quand même bien la galère. Un autre exemple, donc c'est avec MaPrimeRénov. Alors ça, c'est un truc pour améliorer l'efficacité énergétique de son logement. Et ben ça, c'est possible que sur Internet. Donc si vous n'avez pas Internet ou si le fait d'utiliser un ordinateur vous pose des problèmes, vous pouvez juste pas y accéder. Alors évidemment, il y a des convocations de Pôle emploi qui sont envoyées que par Internet. Donc comme ça, on rate le rendez-vous, on se fait radier. Bon, c'est relativement pratique, cela dit, ça a fait diminuer les chiffres du chômage. Mais on peut quand même se dire que c'est un énorme problème pour les personnes au chômage. Et évidemment, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont quand même plus touchées que d'autres. Alors évidemment, il y a une partie de nos anciens et de nos anciennes qui ne sont pas du tout familiarisés avec ces technologies et qui galèrent grave avant de réussir à faire quoi que ce soit. On peut penser aux personnes étrangères qui, si le site n'est pas traduit, par exemple, vont avoir du mal pour lire et donc pour comprendre. Et s'il n'y a personne pour leur expliquer en face, alors comment est-ce qu'ils vont pouvoir accéder à leurs droits ? C'est quand même un vrai problème. Et donc, comme ça, il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir l'information de leur rendez-vous à la préf pour le renouvellement de leur titre de séjour et donc se retrouvent sans récépissé. Alors il y a quand même un truc bien, en bref, ce que dit Claire Hédon, c'est qu'on demande à l'usager de s'adapter au service public, alors qu'a priori le service public c'est exactement l'inverse, il doit s'appliquer à tout le monde. Ce qui est noté aussi dans ce rapport, et ce qui est quand même plutôt intéressant, c'est que c'est ça. C'est finalement les démarches numériques, on trouve que c'est bien, mais c'est un obstacle pour certaines personnes. Et étonnamment, c'est l'accès qui est plus difficile pour les personnes qui sont les plus précaires et les plus vulnérables. Et du coup, finalement, celles qui bénéficient le plus de l'existence des services publics, ce qui est quand même un problème. À titre informatif, on peut quand même noter qu'il y a seulement 40%, donc même pas un site sur deux, des sites des services publics, qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, on peut en plus se demander ce qu'on appelle accessible aux personnes en situation de handicap, et il y a toute forme d'accessibilité par ailleurs. Donc, à mon avis, on doit parler du strict minimum, mais même le strict minimum, il n'existe déjà pas sur plus d'un site sur deux d'accès aux services publics, ce qui est quand même, à mon avis, absolument effarant. Et juste pour tomber un peu de notre chaise, on peut se dire qu'en 2019, c'était 12% l'estimation, en janvier 2019. Alors on peut dire que Macron nous dira qu'il y a eu des progrès, on peut simplement dire que c'est toujours très insuffisant. En tout cas, c'est comme ça. Et du coup, dans le même temps, cette semaine, il y a un rapport qui est paru et qui nous parle par exemple du non-recours au RSA. Et finalement, quand même, faire le lien entre le non-recours aux droits et l'inaccessibilité des droits. Alors là, on parle d'accessibilité parce que c'est numérique, mais il y a aussi toute l'information. Par exemple, pour ouvrir ses droits, il faut savoir qu'ils existent, sinon on ne va jamais aller les demander. Et donc, on apprend qu'il y a 34% des foyers éligibles qui ne demandent pas le RSA, dont 20% de façon pérenne. Pour prendre une idée des chiffres, c'est quand même 600 000 foyers, c'est quand même vraiment énorme, et ça représente 750 millions d'euros que l'État finalement garde dans la poche. Alors quand on se rappelle qu'il nous casse les pieds avec la fraude qui représente à peine une petite poignée de millions d'euros, on ferait peut-être mieux de se préoccuper surtout des 750 millions d'euros que des personnes devraient toucher et qui n'arrivent pas à y accéder. Comme ce rapport, il n'est peut-être pas si pourri exceptionnellement, il y a une des personnes qui a participé qui relève quand même un petit truc un peu rigolo, c'est que bizarrement, les sites les plus accessibles et les mieux foutus, entre autres pour les personnes en situation de handicap, c'est les sites des services fiscaux. Alors que par exemple, pour les prestations sociales, c'est un peu de la merde. Du coup, on peut s'interroger sur les priorités qui ont été mises, parce que peut-être que, effectivement, pour payer, j'allais dire l'ISF, mais ça n'existe plus, mais son IFI, ça existe encore. Peut-être c'est peut-être pas là qu'il fallait mettre l'emphase, ça concerne extrêmement peu de personnes, et dont on peut imaginer, même si c'est pas absolument sûr, qu'elles auront des ressources culturelles et sociales qui pourront les aider par ailleurs. Ah, et j'ai perdu la fin de ma page. Mais on va y arriver. Voilà, et c'est vrai que ça m'a fait penser, on avait parlé il y a quelques mois d'un petit bug sur le site de la CAF, je crois, ou de la Sécu, je ne me rappelle plus. C'est de la Sécu ? Non, c'est la Sécu, c'est sûr. Et qui, du coup, quand on n'avait pas un numéro de sécurité sociale pérenne, c'était les numéros provisoires, et bizarrement, on n'arrivait plus à accéder. Et finalement, on voit bien que ces cas-là, ce n'est pas juste un cas isolé d'un petit bug sur un site d'un dev qui s'est loupé. C'est vraiment juste une politique générale de priver l'accès. Pour finir, du coup, en fait, toutes ces galères et l'impossibilité, en tout cas les grandes difficultés qu'on peut avoir à accéder à ces droits, comme toujours, on vit dans un monde capitaliste et il y a des gens qui trouvent que c'est super chouette de faire du pognon sur le dos des précaires, entre autres. Et du coup, on va pouvoir afficher Wisby, qui est une entreprise en fait, qui propose ses services aux étudiants en disant « Nous, on fait vos démarches administratives, comme ça vous accédez à vos droits, et en échange, on vous gratte 4% sur les aides sociales. » Voilà. Je trouve que ça valait le coup de le mentionner parce que c'est vraiment absolument dégueulasse et on se demande quand même comment des personnes arrivent à penser tout ça. Pour finir, on vous invite à aller voir, à aller chercher un peu sur votre moteur de recherche favori, l'ODENOR, qui est un observatoire de recherche du non-recours aux droits et aux services qui produit quand même beaucoup, beaucoup de rapports et d'informations et de recherches sur ces questions-là, sur le non-recours en général, qu'est-ce que c'est, et surtout, qu'est-ce qui bloque les personnes à l'accès aux droits.
ici l'ombre, les insoumis parlent aux insoumis. Quelques nouvelles du jour. 9h15, un banquier dénonce son client sans papier aux autorités. 13h, les banques, après avoir touché des milliards d'euros publics, annoncent des milliards de profits privés. 23h, le salarié d'une agence bancaire, à cause du boulot, pète un plomb et prend une arme. Message personnel. Au pays du petit Nicolas, le CAC 40 est roi. Je répète, au pays du petit Nicolas, le CAC 40 est roi. L'extrême droite sort de sa planque et se frotte les mains. Deux fois, elle se frotte les mains. Le Fouquet sponsorise aussi la gauche caviar. Je redis, le Fouquet sponsorise aussi la gauche caviar. Appel à la résistance. De l'Europe au Maghreb, de la Grèce à l'Égypte, le peuple voit rouge. L'ombre des révoltes plane sur la crise, car résister, c'est exister. Ils divisent pour mieux régner, mais nous sommes le nombre immense qui ne connaît pas sa propre force.
Et voilà, c'était Olivier Besancenot sur l'album Egomaniac de Joey Starr. C'était plus parce que c'était rigolo que parce que c'était très bien. Malheureusement, on va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu moins joyeux. Ça a été annoncé très récemment par le gouvernement, donc je pense que vous en avez entendu parler. Il y a une indemnité inflation quand le gouvernement est hyper peur qu'il redégile les jaunes, parce que quand même le prix de l'énergie et du carburant en particulier a augmenté à fond. Du coup, ils se sont dit « Ah, on va lâcher 100 balles à un peu presque tout le monde, et comme ça, ils arrêteront de nous casser les pieds et ils continueront de payer leur pétrole la peau des fesses ». Donc ça a été annoncé, il y a plein de gens qui l'ont touché, et il était encore en question le fait de la verser aux personnes qui travailleraient en étant en tôle. Et ben devinez quoi, le gouvernement a décidé que finalement il le méritait pas. Donc c'est un arbitrage qui est venu voilà, dire ça, que toutes les personnes employées au service général ou par un concessionnaire ne seraient pas concernées par cette indemnité. Alors, il y a quand même quelques détenus qui ont droit, c'est celles et ceux qui sont inscrits en formation professionnelle, et c'est là que c'est un petit peu astucieux, celles et ceux qui bénéficieraient des minima sociaux maintenus en détention. Donc pas juste des minima sociaux. Alors il faut savoir qu'en tôle, finalement, les minima sociaux, ça va vite, parce que le RSA, eh ben, on n'y a pas droit, les allocations logement, on n'y a pas droit, les prestations familiales, on n'y a pas droit. Donc les seuls minima sociaux qui restent versés, c'est l'AAH, l'ASPA pour les anciens et les anciennes, et l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASI. Conclusion, eh ben, une fois encore, les détenus ne dépendent pas du droit commun, finalement, ils travaillent, mais déjà qu'ils sont quand même payés, évidemment, c'est même pas au lance-pair, en fait, ils sont à peine indemnisés pour le temps qu'ils passent à travailler, et là, ils n'auront pas le droit à plus de tout ça. En 2022, le statut de salarié n'est donc toujours pas reconnu pour les 20 000 personnes détenues qui ont un emploi, et ça représente quand même 28% de la population carcérale. Une réforme du travail en prison qui devrait entrer en vigueur dans l'année ouvre certains dispositifs de protection sociale aux personnes détenues et les maintiendra néanmoins dans un dispositif toujours dérogatoire du droit commun. Donc finalement, il y a le droit de la tôle et le droit pour toutes les personnes qui ne sont pas en tôle. On peut rappeler, c'est jamais inutile, que quand même le coût de la vie, en fait, en prison, il existe. Pour celles et ceux qui pourraient encore imaginer que c'est gratos de vivre en tôle, le Sénat estimait en 2002, et malheureusement c'est la dernière estimation fiable, mais que c'était plus de 200 euros par mois que ça coûtait de vivre en tôle, parce que tout coûte infiniment plus cher que dehors. Et évidemment, on nous rappelle que près d'un tiers des personnes, en fait, vivent avec moins de 20 euros par mois, donc très 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 en dessous du seuil de pauvreté à population équivalente. Voilà, donc malheureusement encore une mauvaise nouvelle. Malheureusement, on pouvait s'y attendre à cette mauvaise nouvelle, mais on aurait peut-être pu apprécier qu'il y ait juste une fois 100 euros qui soient versés aux détenus, comme à tout le monde finalement.
Petite invitation à aller voir un documentaire enquête de Mediapart, Media Crash. Il est passé en avant-première pour les abonnés de Mediapart, mais il va sortir en salle le 16 février. Plutôt déprimant tout autant qu'intéressant et bien mené. La question principale, c'est qui a tué le débat public ? Censure, pression, autocensure, offensive idéologique. Mediapart donc, et Première Ligne s'associent pour un film d'enquête qui révèle comment l'information et le citoyen sortent perdants d'un système médiatique qui voit 9 milliardaires posséder 90% des médias privés. Cherchez l'erreur. révéler des censures et des autocensures. Il y a des journalistes qui témoignent de pression, entre autres le petit journal Fakir, représenté par Ruffin, qui peut finalement reprendre une sorte d'enquête qu'ils avaient mis en place et se rendre compte que le cher directeur de LVMH s'en trouve bien embêté et se permet finalement de convoquer la justice et les forces de l'ordre pour essayer de confiner les demandes qu'avait ce journal-là pour un couple de personnes qui avaient perdu leur logement ou je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il était question peut-être que ça fasse du bruit et ils ont été sortis manu militari avec la connivence des forces de l'ordre et ont pu être jugés par la suite. Donc avec quand même une implication de la justice assez étonnante. Vous pourrez voir aussi Bolloré qui, pour s'en sortir d'une accusation d'embaucher des jeunes mineurs sur un port qu'il maîtrise au Cameroun, il a pu amener des faux documents validant le non-lieu d'une cour de justice au Cameroun qui s'avérait ne pas exister avant, aux dates de documents fournis par Bolloré. C'est très, très, très intéressant, haut en couleur. Et puis, on peut bien voir comment ces mecs-là peuvent être dans une toute-puissance absolument magistrale. Et du coup, c'est en salle le 16 février.
Eh bien, merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, dans Scanu Info, on dénonce la censure, les différentes formes de discrimination, mais on aime bien un peu cette lutte contre la dématérialisation des choses. Donc, on va revenir là-dessus quand même pour vous parler d'une mobilisation qui a eu à Paris ce mercredi contre des guichets fermés en préfecture et notamment la mobilisation de personnes sans papier contre ces fermetures. Pour vous donner plus d'infos, en gros, en Seine-Saint-Denis, la régularisation des travailleurs et des travailleuses sans papier est à l'arrêt depuis plusieurs années. Notamment, ce qui est pointé, c'est la dématérialisation des services pour les demandes de titres de séjour, qui crée des files d'attente invisibles, loin de la préfecture. Pour dénoncer cette pratique discriminatoire, qui va à l'encontre du principe d'égalité d'accès aux services publics, si vous avez écouté le début de Scanu Info, vous comprenez ce que je dis, des centaines de personnes se sont donc réunies mercredi 16 février sur parvis de la préfecture à Bobigny. Donc voilà, pour vous dire aussi que cette lutte contre la dématérialisation, c'est pas juste des grands discours ou des textes sur Internet, ça touche directement des personnes qui se mobilisent. On peut vous lire un peu ce qu'on a pu voir sur les différentes pancartes, les différents slogans qui ont été scandés pendant cette manif. Il y avait par exemple « Sans papier, sans droit, écrasé hors la loi » ou encore « Les préfets se servent du numérique pour bafouer les droits » ou encore « Ouvrez les guichets pour les travailleurs sans papier ». Les associations et syndicats d'aide aux exilés réunis au sein du collectif Livre Noir 93 et Bouge ta préfecture alertent notamment et dénoncent sur ce procédé qui est donc, je le rappelle, illégal et qui vise à entraver les démarches des personnes étrangères installées en France. On pouvait aussi par exemple entendre Igor qui disait « Avant, on venait dès 5h du matin faire la queue devant la préf pour obtenir un récépissé, connaître l'avancée de notre dossier ou obtenir un titre de séjour. Mais aujourd'hui, si on vient, on ne rentre même pas. Le gars de la sécurité nous met dehors et nous dit de prendre rendez-vous en ligne. » Il y a encore une autre personne qui fait partie du réseau Éducation sans frontières dans le 93 qui explique « Cette dématérialisation est une volonté du gouvernement de bloquer l'accès au séjour pour les étrangers. Ça permet de faire disparaître les queues qui faisaient tâche devant les préfectures. Mais cela crée des files d'attente virtuelles derrière les ordinateurs. » En fait, c'est un procédé qui est expérimenté à partir des années 2010, cette mise en place de prise de rendez-vous sur Internet, et ça a été systématisé avec l'apparition de la pandémie de Covid. Le ministère de l'Intérieur entend donc déployer ce système qui est baptisé, je vous dis, Administration numérique pour les étrangers en France, ou ANEF, sur le territoire national d'ici la fin de l'année 2022, ça veut dire en gros cette année. Ça concerne 10 millions de personnes et ça vise, selon le gouvernement, à simplifier les démarches et fluidifier les échanges entre l'administration et les demandeurs de titres de séjour. Si vous avez tout suivi jusqu'ici, vous voyez bien que ça fait l'inverse. Notamment la réalité vécue par ces hommes et ces femmes résidant sur le territoire français est pour l'heure tout sauf évidente. Si on prend un peu l'exemple encore de Igor, lui il est arrivé de Serbie en 2015. Il essaye depuis près de 2 ans d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour. Et il dit par exemple « J'ai essayé pendant des mois de prendre rendez-vous en ligne, mais c'est impossible. Ça me dit « Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. » Je me suis même réveillée plusieurs fois à 3h du mat pour essayer de me connecter sans succès. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait Igor ? Il est allé voir la CGT pour que le syndicat l'aide à déposer un dossier. Il est parvenu en octobre dernier, mais vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il faut avoir les ressources d'aller voir un syndicat et au bout de quelques mois, on arrive à déposer un dossier. Et depuis, qu'est-ce qui se passe pour Igor ? Il est dans l'attente. Il dit, s'il y avait un accueil physique, au moins, on saurait ce qui se passe avec nos demandes. Et c'est là que, du coup, voilà, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a un écran et juste, il se passerait. Contre l'inaction de la préfecture, donc des centaines de recours ont été déposés par des avocats devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il enjoigne à l'État de débloquer des rendez-vous en urgence. Alors, il y a Justine Langlois du syndicat des avocats de France qui nous dit, enfin qui dit surtout au Bondi Blog à qui on a pris cet article, en 2020, nous avons déposé pas moins de 2030 référés mesures utiles, ça s'appelle apparemment des RMU. Cela équivaut à une augmentation de 297% en un an. Les RMU, c'est lourd et usant pour les avocats et pour les bénévoles d'associations. Mais surtout, ce n'est pas normal de devoir passer par le tribunal pour accéder au service public. Une décision du Conseil d'État, datant de 2020, stipule que les personnes étrangères sont autorisées à saisir le tribunal administratif lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et qu'il n'a pas été possible de l'obtenir malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Et donc, selon Stéphane Peu, c'est le député de la deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis, le préfet l'aurait admis, les 2/3 des rendez-vous se feraient par un recours devant le tribunal. Donc voilà, hein, finalement, on ne fait que appuyer que ce qu'on vous a dit précédemment. Et si on prend, c'est ça, c'est juste que ça met les gens dans des situations catastrophiques et qui peuvent en gros pas accéder au peu de services publics qui restent encore en France.
C'était pour vous donner un petit peu des nouvelles. On en a parlé il y a quelques semaines du scandale des maisons de retraite et pas de, de Orpea. Il y a toujours hein, ce livre de Victor Castanet qui est du coup maintenant sorti au titre des Fossoyeurs. Qui alimente toute une étude faite de témoignages, d'observations, etc. sur la manière dont sont gérés ces EHPAD. Suite à ça, on a pu découvrir sur une information que l'ex-directeur du coup d'Orpea avait revendu 3 semaines après avoir appris la sortie du livre 5456 actions de son entreprise et encaissé du coup plus de 588 000 euros. Depuis, il est justement
riche.
Riche, mais on l'accuse de délit d'initié, figure-toi. Ah. Mais il le réfute. Donc je pense que c'était aussi juste pour vous informer que chacun ses activités du mois d'août et de l'été. Certains restent chez eux dans des villes mortes. Certains économisent toute l'année pour pouvoir se payer quelques bons temps et changer d'air pendant quelques jours. Mais Yves Le Man, du coup, ben lui, c'est une habitude. Au milieu de l'été, c'est la période à laquelle il vend habituellement des actions. Donc ça n'a rien à voir avec le livre. Du coup, il peut dire justement que c'est une habitude qu'il a depuis très longtemps et qu'on peut se référer à ses déclarations des années antérieures. Voilà, à chacun ses activités.
Et du coup, sans transition.
Oui, on va parler de foot. Et plutôt, on avait parlé il y a quelques semaines déjà de l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. En fait, c'est le Sénat qui a validé le 19 janvier 2021 un amendement qui avait été proposé par le groupe LR qui interdit, donc, je cite, le port des signes religieux ostensibles. lors des événements sportifs et compétitions sportives organisées par les fédérations sportives. En fait, il y a un collectif, donc les hijabeuses, qui est un collectif qui défend le droit des joueuses de football à porter le voile lors des matchs officiels. En fait, elles avaient justement saisi le Conseil d'État en novembre 2021 pour obtenir l'abrogation de l'article 1 du règlement de la FFF, donc la Fédération Française de Football, qui interdit tout port de signes ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Mais en fait, déjà, ça s'inscrit dans le fait que depuis 2014, la Fédération Internationale de Football, la FIFA, autorise en fait le port du hijab aux joueuses, mais la Fédération Française de Football refuse, avec des raisons du genre l'hygiène, la sécurité et la laïcité. Forcément. Mais du coup, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. En plus, il y a des sports où, au niveau compétitif, le port du hijab est autorisé, par exemple le karaté. Voilà. Du coup, peut-être le terme de sécurité, je ne sais pas trop. Bref. et du coup, où est-ce que j'en étais ? Donc, en fait, il y avait ça. Il y a eu que donc, le 19 janvier, il y a eu cet amendement-là. Et ça devait donc être ensuite discuté par l'Assemblée nationale, parce que là, c'était le Sénat qui avait fait cette interdiction. Et donc, c'était le 9 février dernier. Et en même temps, donc, les hijabeuses avaient décidé de faire le match retour qu'elles avaient... En fait, donc, pardon, je m'éparpille un peu, mais donc le 26 janvier, après le fait qu'il y ait eu cet amendement, elles étaient allées jouer un match de foot vers les jardins du Luxembourg, donc à proximité du Sénat, avec une banderole qui disait « Football pour toutes ». Et en fait, donc, le 9 février, c'était le match retour à côté de l'Assemblée pour justement pour manifester en quelque sorte, parce qu'il était en train de se discuter cette histoire d'amendement. Mais la préfecture de police de Paris a en fait carrément interdit la manifestation. Et le préfet Didier Lallement, ses arguments, c'était du genre qu'elles n'auraient pas donné une adresse suffisamment précise. Mais surtout, en fait, il a dit que la manifestation, donc, je le cite, avait trait à la revendication du droit au port du voile islamique, dit hijab, lors des compétitions de football, pratique interdite par le règlement de la Fédération officielle de football. Et après, il s'est lancé aussi dans des considérations autour du patriarcat, de l'émancipation des femmes, des valeurs de la République, etc. voilà. Mais du coup, on parle jamais des footballeurs qui, par exemple, signent ou des choses comme ça pendant les matchs. Mais par contre, si une personne qui est voilée, alors là, par contre, c'est pas du tout laïque, tout ça. Donc on peut quand même dire que ces arguments, ils sont islamophobes, quoi. Pas trop d'autres mots. Et du coup, cette manifestation des hijabeuses avait été donc interdite, mais elles ont été soutenues par Alliance Citoyenne, qui est une organisation de défense des habitants des quartiers populaires. Et donc, avec cette aide-là, les joueuses, elles ont saisi le mercredi même, enfin le matin, le tribunal administratif pour un recours. Et donc, l'arrêté du préfet a été finalement suspendu. Mais en toute fin d'après-midi, donc c'était après l'heure prévue en fait de la manifestation, donc voilà. Donc c'est vraiment une petite victoire qui arrive un peu tard, mais bon, voilà. On peut se dire quand même que dans la manifestation, le fait qu'elle soit interdite, c'était aussi pour des raisons de sécurité apparemment. Alors que quand même on compte un bon nombre de manifs d'extrême droite, mais que bon, un match de foot c'est très très dangereux. Et aussi, c'est quand même fou de penser que, comme d'habitude, l'émancipation des femmes, ça doit passer en leur interdisant de comment elles doivent s'habiller, et du coup, par conséquent, de leur interdire de pratiquer le sport qu'elles aiment, etc. Et en plus, de les empêcher de manifester. C'est quand même un peu bizarre. Et donc, les hijabeuses n'ont pas pu faire leur match retour, mais elles devraient organiser un nouveau match bientôt. Et il y a eu plusieurs endroits en France où il y a eu des matchs de soutien. Et par exemple, à Lyon, c'était le 16 février, donc c'était mercredi, si je ne dis pas de bêtises. C'était au terreau. Et on a pu jouer au foot avec les débuteuses, qui est une équipe de foot militante contre les discriminations, donc à Lyon. Et le prochain rassemblement sera le jeudi 24 février, parce que c'est à nouveau cette fois-là que l'Assemblée nationale va donc se réunir à nouveau. Donc on espère que ce sera une double victoire, qu'elles puissent déjà jouer leur match retour et que l'amendement sera rejeté.
international, 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 international.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Au Sénégal, donc le train de la modernité et le seau de riz renversé. Effectivement, ça fait un titre presque de conte. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou comment on gère l'absurde de la situation. Dakar, au Sénégal. Il gît là, dans l'allée centrale, entre deux carrés de voyageurs. Un seau blanc, renversé, couvercle ouvert, du riz s'en échappe. Le TER n'a pas encore démarré. On cherche à identifier le propriétaire du récipient. C'est Hassan Faye, docker de son état. Le quadragénaire, ailé par d'autres passagers, s'en approche et entreprend de ramasser son contenu. Pour ce riz renversé, Hassan Faye sera interpellé quelques jours plus tard à son domicile, menotté, conduit à la gendarmerie, passera plusieurs jours en garde à vue et sera jugé pour dégradation de biens publics. Il finira par bénéficier d'un non-lieu au prix de nombreuses insomnies, de la honte d'avoir été exposé à la vindicte publique et d'une centaine d'euros de frais d'avocat, une somme exorbitante au vu de ses revenus. Comment en est-on arrivé là ? L'arrestation d'Hassan Faye n'est que le dernier maillon d'une chaîne, la scène finale d'une parabole tragicomique où grande histoire et trajectoire personnelle finissent par s'entrechoquer dans la cabine d'un wagon climatisé. Si Hassan Faye n'avait pas transporté de riz, il n'aurait pas fini en garde à rue. S'il n'était pas aussi mal payé en tant que docker, il n'aurait pas eu besoin de transporter du riz. Si le Sénégal n'avait pas subi les ajustements structurels des années 90, il n'aurait pas été aussi mal payé en tant que docker. Si un gendarme ne se trouvait pas là sur le quai, il n'aurait pas été arrêté pour ce motif absurde. Si le président Macky Sall n'avait pas fait du TER de Dakar le symbole triomphant de sa politique de modernisation du pays, il n'aurait pas eu besoin de mobiliser 260 gendarmes pour surveiller cette nouvelle ligne. Et si cette modernisation était vraiment destinée aux plus modestes, comme le Sénégal et ses partenaires étrangers dont la France le répète, elle n'aurait pas pour conséquence de passer les menottes aux poignets de gens simplement coupables d'être pauvres et d'avoir voulu prendre le train. Hassan Faye, du coup, effectivement, c'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui est docker depuis une vingtaine d'années également, qui débute sa journée de travail à peu près à 4 heures le matin. Tous les jours, il se lève, il s'habille et puis il prend un Ndiaga Ndiaye, c'est un minibus de transport en commun, et file vers le port de Dakar pour y être avant le lever du jour. Là, donc, il se fait embaucher comme manutentionnaire à la journée. Il décharge le contenu de gros bateaux venus de l'étranger. Et son travail terminé, il monte dans un autre Ndiaga Ndiaye et regagne sa banlieue. Le docker habite dans un quartier de Dakar très excentré, avec à l'intérieur de la ville des logements qui sont de plus en plus inabordables au niveau tarif. Donc ça fait une étendue de la ville. Et chaque habitant de ces périphéries du centre de Dakar savent que c'est des heures entières passées par jour dans les embouteillages. Comme en plus la capitale est placée sur une presqu'île, son entrée est très réduite et donc chaque jour, des bus, des 4x4, des cars, des poids lourds, des cyclistes, des charrettes, etc. Passent leur temps à avancer pas à pas dans un concert de klaxon. Et donc ce mercredi 5 janvier, en sortant du port, Hassan Faye s'est dit qu'il allait éviter la cohue en prenant le train récemment mis en service. Il s'est rendu à la station de TER la plus proche du port et a attendu son seau sous le bras. Un seau blanc et jaune, duquel exhalait une odeur de nourriture fermentée. Il faut savoir que le métier de docker a longtemps bénéficié d'un statut relativement privilégié au Sénégal. La mobilisation de syndicats et partis politiques au lendemain de l'indépendance leur a permis d'arracher un certain nombre de droits sociaux. Mais en 1994, sous la pression des plans d'ajustement structurel,
le secteur fut libéralisé. Le nombre de dockers professionnels baissa, remplacé par des occasionnels et des journaliers plus précaires, sans emploi garanti et sans protection sociale. Hassan Fahy, du coup, il a commencé justement dans les années 98 comme journalier. Pour 12 heures à décharger les bateaux, il gagne 10,7 euros. Insuffisant pour de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, il décide justement de, dans ce petit, sa petite maison avec un petit terrain vague qu'il y a derrière chez lui, de réparer des poids lourds ou élever 7 moutons et une poignée de canards pour avoir un revenu en plus, en pouvant justement les vendre au moment de fêtes, comme la fête de la Tabaski, pour arriver à avoir un petit peu plus de ressources pour vivre. Donc, pour nourrir ces bêtes-là, justement, c'est le Nyamumbam. C'est la nourriture préférée et c'est très économique parce que chaque jour, il vient récupérer cette sorte de riz fermenté où il y a un peu de chou, un peu de carotte qui traîne. Donc, il les récupère vers son lieu de travail et puis il repart avec ce petit seau pour aller nourrir ses animaux le soir. D'ordinaire, il cale son seau sous l'un des sièges du bus. Cela gêne personne, mais ça, c'était avant la modernité. Les industriels aiment recouvrir métal et béton de promesses lyriques. Au Sénégal, le géant du BTP, Eiffage, appelle son autoroute à péage l'autoroute de l'avenir. Le port à conteneurs construit par le Dubai Yacht, DP World, sera le port du futur. Quant au TER, c'est tout simplement l'entrée de Dakar dans l'ère de la modernité. La modernité a coûté plus d'un milliard d'euros et elle fleure bon le Made in France. Eiffage a construit les voies ferrées par des entreprises turques et sénégalaises. Engie et Thales se sont occupés des systèmes d'électrification et de signalisation. Alstom a fourni les trains eux-mêmes. L'exploitation et la maintenance ont été confiées à une filiale de la SNCF. La société d'exploitation du train express régional, CETER. L'Agence française de développement et le Trésor français ont aidé à financer le tout. Donc ce petit bijou de collaboration sénégalo-française a été inauguré le 27 décembre par le président sénégalais. Pompe, tapis rouge, etc. Retransmission sur la télévision nationale. Ce n'est plus qu'un train, c'est un puissant levier. Développement économique et émergence du Sénégal grâce à lui. Avec un président qui pouvait dire quand même qu'on pouvait, tous les Sénégalais pouvaient être fiers de cette entrée dans la modernité et cette idée d'une sorte de TER social, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'image du Sénégal pour tous en train d'émerger dans l'équité, la justice sociale et le progrès économique. Donc pour Hassan Fahy, le TER était surtout l'occasion d'économiser le prix d'un ticket de bus. Le train étant gratuit pendant les 15 premiers jours. Après une journée, encore une fois, sûrement harassante de travail, c'est vrai qu'il s'est peut-être payé le luxe de se dire « Tiens, je vais tester ce nouveau train de la modernité. » Il est monté, puis bousculade, etc. Son seau est tombé. C'est même pas lui qui l'a fait tomber, dit son fils. Ça a été quelqu'un a trébuché dessus. Qu'importe, des passants se sont agacés, des gendarmes sont arrivés sur les lieux. Ils étaient 260, déployés spécialement sur le trajet du train pour assurer la protection de la ligne et de celles et ceux qui l'empruntent. Comme ce qui était dit au début de l'article, du coup, ils ont relevé son identité et puis l'ont laissé partir. Et puis un jour, quelques jours plus tard, il s'est retrouvé à à voir les gendarmes arriver chez lui, le menotter, l'arrêter. Il a passé 4 jours en garde à vue avant de pouvoir être présenté à un juge. Les gendarmes avaient-ils reçu des consignes spécifiques de sévérité ? 2 jours après l'inauguration, le directeur de la filiale de la SNCF qui exploite la ligne, Stéphane Volant, avait averti « Si les jeunes s'attaquent au TER, ils se feront engueuler et très sévèrement par la gendarmerie. Elle est là pour protéger nos clients, pour protéger cette infrastructure. Toute personne qui viendra s'attaquer à symbole sénégalais sera très lourdement sanctionnée. » L'histoire se termine, en tout cas, si l'on peut dire plutôt bien, du coup, il va être relâché au bout d'un moment. Par contre, avec une amende qui, pour lui, est énorme. Et donc, c'était une bien mauvaise idée qu'il a eue de pouvoir découvrir cette nouvelle construction de l'avenir au Sénégal. Lors de son audition, le docker s'est entendu dire par la juge « Si vous voulez transporter du riz à l'avenir, vous prendrez le bus. Avec ou sans nourriture pour mes bêtes, je ne remettrai plus les pieds dans ce train », a-t-il juré. En quittant Hassan Faye, on y est monté. Ouais. De fait, il est spacieux, climatisé, propre, rapide. La modernité à n'en point douter. Les Faye et leurs voisins continueront de le regarder de loin.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police fusille, la police assassine. Qu'est-ce que de droite? Nous sommes service. La police mutile.
Violence policière.
Et oui, malheureusement, toutes les semaines, on pourrait vous passer ce jingle sur les violences policières, là plus précisément cette semaine sur l'impunité policière et notamment sur le non-lieu pour les policiers de la BAC qui ont tué Liu Xiaoyao par balle. C'est mercredi, du coup, le 16 février, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la famille de Xiaoyao Liu contre le non-lieu retenu en novembre 2020 par la Cour d'appel de Paris. Pour vous refaire un peu le contexte, cette personne de 56 ans est décédée le 26 mars 2017 après avoir été atteinte par le tir d'un policier. À ce moment-là, la communauté chinoise de Paris s'était mobilisée pour demander justice et vérité. Une mobilisation qui s'est poursuivie tout au long de la procédure judiciaire en première instance puis en appel. Et donc ce mercredi, la justice a prononcé un non-lieu définitif dans l'affaire de la mort de Xiaoyao Liu. Après un non-lieu en première instance confirmé en appel, la Cour de cassation a mis un terme à la procédure en déclarant irrecevable le pourvoi de la famille du ressortissant chinois. Le recours est ainsi rejeté sans même avoir été examiné par la haute juridiction. Donc c'était le 26 mars 2017, dans le 19e arrondissement, que Xiaoyao Liu a été tué. Ça avait été un choc, des manifestations rassemblant jusqu'à plusieurs milliers de personnes avaient été organisées, notamment à Paris. L'affaire avait été racontée sur le site Street Press. Pour vous situer encore plus précisément, vers 20h30, trois agents de la BAC équipés de pistolets et d'un fusil d'assaut, appelés sur place pour tapage nocturne, fracturent la porte du domicile des Liu où se trouvait Xiaoyao avec trois de ses filles. Un des policiers tue sur Xiaoyao qui s'effondre. Dès le premier non-lieu en 2019, M. Pierre Lumbroso, avocat de la famille, dénonçait l'incurie de la justice dans cette affaire. Plus précisément, il disait: depuis le début, les juges d'instruction, qui sont le bras armé du parquet, ont décidé que ça n'irait pas très loin, puisque le policier qui a tiré n'a jamais été mis en examen dans ce dossier. Comme dans les affaires Rémi Fraisse ou Gaye Camara, la justice permet l'impunité et protège la police. Et donc c'est aussi un peu un appel pour rappeler la nécessité qui est présente quotidiennement d'apporter le soutien aux familles des victimes et de rejoindre les collectifs Justice et Vérité.
On fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda!
C'est ça, souvent on vous raconte des trucs pas drôles dans le Canu Info, mais après on vous donne plein de petites pistes pour aller vous amuser le week-end, alors ça c'est super. Par exemple, demain, vous pouvez aller découvrir le dernier numéro de Panthère Première. Panthère Première, c'est une super revue qui est faite avec un comité éditorial en mixité choisie sans mec 6. Et c'est une revue indépendante de critique sociale qui a été lancée en 2017. Et il se trouve que du coup, il y a des personnes de Panthère Première qui sont à l'illégalité demain après-midi pour un atelier goûter discussion. Vous pouvez par exemple vous rendre à 15h30 pour un jeu d'écriture autour de l'esprit vieille et de la vieillesse, parce que leur dernier numéro, c'est sur les vieilles. Vous pouvez vous essayer à la composition collective d'un texte où le corps vieux est le héros, quel que soit votre rapport à l'écriture et à la langue française. Si quand même ça vous fait un peu peur de faire ça, vous pouvez arriver à 17h pour le goûter puis la présentation. Donc de ce numéro 7 de la revue, et discuter avec des membres de la revue. Si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à Villeurbanne, ce qui est quand même très dommage, vous pouvez quand même rester dans le 7e et aller par exemple à l'Amicale du Futur. Vous intéressez à quoi? Vous intéressez aux luttes contre les désastres écologiques faits par Bayer Monsanto. Vous avez quand même commencé vous avez dû commencer à en entendre parler. Le 5 mars, il y a une grosse mobilisation contre Bayer et Monsanto. Et depuis quelques semaines, il y a pas mal de mobilisations et d'événements qui sont organisés, notamment par les collectifs des soulèvements de la Terre. Et demain, donc, c'est à l'Amicale du Futur à partir de 16h. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une conférence sur numérique génétique robotique vers la transition écologique. Je vais vous lire un peu leur descriptif. Ils nous disent... Sécheresse et inondations disputent l'actualité du désastre aux marées noires, accidents nucléaires et autres explosions de dépôts et d'usines d'engrais. Prétendant en sortir, les économies capitalistes accélèrent leur mutation à la faveur de la crise du Covid-19. Big data, biotech et technologies de rupture, c'est la foi inébranlable dans l'innovation industrielle et la convergence des nouvelles technologies qui écrasent toute autre perspective. Alors là, après, il nous parle, je vais peut-être pas tout vous lire, des drones, des tracteurs intelligents, des OGM. Et du coup, tout ça, c'est pour dénoncer, en gros, j'imagine, l'énorme industrialisation et technologisation de nos vies. Et ça va être animé par Hélène Torjman, qui va intervenir en s'appuyant sur son livre « La croissance verte contre la nature », mais aussi par Guy Kastler, qui est un des initiateurs du réseau Semences Paysannes, et enfin par des membres de l'atelier Paysan. Donc voilà, samedi, vous avez le choix, Villeurbanne, Panthère Première ou l'Amicale du Futur, les soulèvements de la Terre. Vous faites bien ce que vous voulez, vos samedis soirs et votre dimanche, mais à partir du mardi, vous pouvez retourner à l'Amicale du Futur pour aller soutenir le Jusqu'ici. Le Jusqu'ici, c'est d'ailleurs pas très loin de l'Amicale du Futur, puisque c'est 169 Grande Rue de la Guillotière, et c'est un local qui souhaite acheter ses murs. Pourquoi? Parce qu'il propose une librairie, une bibliothèque politique, un espèce d'organisation politique pour de nombreux collectifs et organisations militantes, des bureaux pour des associations culturelles, une salle pour organiser des conférences ou des projections. Bref, du coup, ça a l'air super que le Jusqu'ici se pérennise. Et donc, pour ça, vous pourrez aller à la soirée de soutien à l'Amicale du Futur pour leur donner des sous en buvant des bières ou des clubs matés à partir de 20h. Juste à côté, si vous avez envie d'aller un peu discuter, un peu avant, à 18h, aux clameurs, vous pourrez aller discuter autour de l'autodéfense numérique. Vous savez, les clameurs, c'est ce bar fédératif qui organise des causeries tous les mardis soirs. Et donc, la prochaine, mardi prochain, le 22 février, elle sera sur l'autodéfense numérique. Vous avez sans doute en tête l'histoire de militants tombés à cause de leur adresse IP, d'une carte SIM, d'un téléphone qui a borné au mauvais endroit, au mauvais endroit. Moment. Les lois sécuritaires, les unes après les autres, renforcent les outils des forces de l'ordre pour avoir accès à nos traces numériques qui sont de plus en plus nombreuses. Peut-être aussi pour déblayer tous les fantasmes et les vraies réalités, vous pourrez vous rendre aux clameurs. Et puis voilà.
Super. Alors, on n'a pas le jingle, mais est-ce qu'on a un ACAB ce soir?
Bien, un ACAB, c'était une proposition après les paroles, les rencontres, etc., là, dans l'agenda qui vient de vous être dit. En tout cas, une idée de s'attaquer à la censure avec un ballon.
Avec un
ballon.
Ah. Super. Eh bien, le Canu Info, c'est terminé pour ce soir. Il est 19h56 et bientôt, vous aurez votre émission de musique qui suit de musique de type... De type folk.
Je crois.
Des fois, il passe du bluegrass, mais c'est quand même pas tous les vendredis.
Voilà, votre émission folk arrive dans quelques instants. Et puis, bonne soirée et à la semaine prochaine.